Jésus. À chaque fois que je réalise combien Dieu m'a aimé, je me sens tellement indigne et tellement reconnaissant de ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que vous avez envie de recevoir de Dieu une pensée? Est-ce que vous avez un cœur ouvert pour que le Saint-Esprit puisse vous parler? Si c'est le cas, vous allez recevoir parce qu'il a dit « Demandez, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira ». Et si c'est Dieu qui ouvre la Bible, et ben c'est bon. Alors on va prier pour que Dieu puisse avoir un accès dans notre cœur. Merci notre Père pour ta présence en ce lieu et en cet instant. Seigneur, je veux vraiment diminuer que toi tu grandisses. Que toute personne qui écoute ce message ici maintenant ou bien sur internet ou peut-être par un CD, Seigneur, soit touché parce que le Saint-Esprit veut lui parler. Seigneur, fais-toi un chemin, fais-toi une place ici maintenant et que ta voix vraiment prenne la place de ma voix, Seigneur. Je suis rien, Seigneur, mais tu es tellement bon et tu as tellement envie de faire du bien à quelqu'un que je veux te laisser cette possibilité avec grand plaisir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia, Jésus. Voilà, on se retrouve ensemble ce matin pour ouvrir dans le livre de Néhémie, une pensée que j'ai sur mon cœur. On va prendre le chapitre 6 à partir du verset 1er. Livre de Néhémie. Vous savez où c'est Néhémie? C'est pas facile à trouver parce qu'on fait souvent l'erreur de le chercher un peu loin dans la Bible et en fait c'est avant les psaumes. C'est juste après Rois et Chroniques dans le livre de Néhémie. Voici le message de ce matin. J'ai remarqué quelque chose, c'est lorsque vous vous êtes fixé un objectif pour votre vie, quand vous avez pris une décision avec Dieu, la tactique du diable, c'est de vous faire perdre du temps. Il n'a pas beaucoup de cartes à jouer pour vous empêcher de réaliser votre destinée, mais il va simplement essayer de multiplier des peurs dans vos vies, des combats secondaires pour vous détourner de l'objectif et vous faire perdre du temps avec plein de petits conflits inutiles et secondaires qui vont comme avaler toute votre énergie et vous éloigner du vrai projet qu'a prévu Dieu pour votre vie et de ce qui était vraiment votre enthousiasme et votre cœur. Et dans le livre de Néhémie, on va lire une histoire qui est incroyable, c'est comment le diable, à chaque moment, va envoyer plein de petits problèmes pour essayer de arracher Néhémie à l'objectif qu'il a fixé avec Dieu. Alors on se retrouve quelques années, des centaines d'années avant Jésus-Christ, et on se trouve dans la ville de Suse, c'est-à-dire on est en Iran-Irak, dans cette grande capitale d'Assyrie à l'époque, et on va lire ce qui se passe dans le livre de Néhémie. Mais avant, écoutez ça. Néhémie 6, verset 1er. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fait rebâtir la muraille et qu'il restait plus de brèches, sauf les portes, dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Kephirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. 4 fois, ils vont venir pour essayer de le détourner de son objectif et à chaque fois, Néhémie va répondre « Désolé, je n'ai pas de temps à perdre avec cela. » Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Ça va tous vous faire bien comprendre le thème. Désolé, je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Si vous arrivez à l'appliquer dans votre vie, vous perdrez beaucoup moins de temps. Parce que le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Vous avez une vie pour réaliser des rêves que Dieu a mis dans vos cœurs. Vous avez une vie pour que votre cœur puisse être sensible à des besoins et à des projets de compassion. Et vous n'avez qu'une seule vie et vous n'avez qu'un certain nombre de jours. Et le diable veut vous manger votre énergie à des combats stupides et inutiles. Alors on va être concret tout à l'heure et 2 choses que je voudrais voir. Je voudrais voir avec vous dans une première partie comment définir un objectif de vie. parce que c'est très important que votre vie, vous ne la dilapidiez pas en la subissant seulement. Dieu veut faire naître en vous des projets, même si vous avez des années de conversion. Même si vous êtes dans cette salle et que vous avez l'impression que votre vie est derrière vous. Moïse, il a commencé à 80 ans. Et il avait des projets devant lui qu'il ne pouvait même pas imaginer. Mais il avait un cœur pour Dieu et il était prêt à oser. Est-ce que vous seriez prêt à oser ce matin, dans une première partie, voir quel est l'objectif ? Est-ce que Dieu a encore des choses pour moi en réserve ? Deuxième aspect qu'on verra ensuite, méfiez-vous, parce qu'une fois que vous avez défini un objectif, le diable va essayer de vous voler votre objectif et vous faire perdre du temps sur des choses secondaires. Alors, c'est ce qui se passe dans le chapitre 1er. Allez, Néhémie, chapitre 1er. Premier point, choisir un objectif. C'est forcément très personnel. Très personnel. J'ai pas le même appel que toi, j'ai pas la même destinée. Chacun d'entre nous n'a pas la même destinée. Mais arrêtons ces clichés que l'on a des fois dans les églises, qu'une destinée qui est valable, c'est simplement une destinée où tu es, je sais pas, avec Mère Teresa, en train de travailler en Inde, à t'occuper des enfants de la rue. Alors effectivement, c'est formidable. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pas ton histoire. Pourquoi ce n'est pas ton histoire ? Parce que Dieu ne t'a pas fait habiter en Inde. Il ne t'a pas fait apprendre l'hindi quand tu étais petit. Et ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Si c'était le projet de Dieu que tu construises des églises, il t'aurait donné des capacités en mathématiques et en géométrie dans l'espace pour que tu deviennes un architecte. Mais depuis le CM2, tu as compris que les maths, ce n'était pas toi. Et tu sais pas quoi ? Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Ta mère a eu des problèmes avec ça, peut-être ta maîtresse a eu des problèmes avec ça. Mais Dieu, lui, il est très confortable à l'idée que tu es quelqu'un de littéraire. Et il ne fera jamais de toi un architecte. Ben alors du coup, ma vie n'a pas de sens. Mais bien sûr que si. Regarde Néhémie, tu as une vie qui commence mal. Au lieu de naître en Israël, tu nais dans un pays étranger qui s'appelle Suse, donc c'est l'Iran, l'Irak, avec un roi qui s'appelle Artaxerxès. C'est la 20e année du règne d'Artaxerxès, le mois de Kislev. Je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Ça, c'est ce que j'appelle une vie pas très intéressante. Mettez-vous à la place de Néhémie, vous apprenez ça. Le peu d'espoir que vous aviez, qu'est-ce qu'il fait toute la journée Néhémie ? Néhémie, il est échanson, ça veut dire qu'il est goûteur, il est testeur, il a un CAP cuisine et il est là pour tester que les mets du roi, que le vin que le roi goûte chaque jour et que les plats cuisinés ne sont pas empoisonnés. Vous aimez ce job ? Moi, j'aime pas trop, franchement. Hein. En sachant que l'espérance de vie d'un roi est durée limitée et que le premier qui meurt avant, le maillon faible, c'est le goûteur. Pensez un petit peu, vous verrez un petit peu. Ça, c'est la vie de Néhémie. Et tout d'un coup, il apprend que ce qu'il avait à cœur, Jérusalem, son pays, sa famille, sa patrie, eh ben, en fait, tout est en ruine, la muraille est brûlée, il ne reste rien, ça a été ravagé. Alors j'entendis ces nouvelles et je m'assis et je me mis à pleurer. Et pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, je priais constamment devant Dieu, le Dieu du ciel, et je suppliais, verset 5. Ah, éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs. Vous savez, des fois dans nos vies, quand vous êtes objectif avec vous-même, vous dites, qu'est-ce que je fais quelque chose d'utile aujourd'hui ? Est-ce que ça a un sens ce que je fais ? Et j'ai vu des chrétiens qui, au bout de 10 ans, 15 ans, ben, ils ne trouvaient toujours pas de sens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils attendent, et moi j'ai été élevé comme ça aussi dans une église de Pentecôte, c'est la version pentecôtiste de Jeanne d'Arc, mais que Dieu te fasse, je ne sais pas moi, carrément qu'il te parle du ciel et qu'il te dise « J'attends de toi que tu sois leader de louange dans l'église de Cergy-Pontoise. » Merci Seigneur. Et quelle école ? Tu feras l'école, tu iras en Australie pendant 2 ans, tu seras formé ensuite. Mais Dieu, ça n'arrive jamais ça. Enfin si, ça peut arriver. Mais un cas très exceptionnel. Très très exceptionnel. Vous savez quel est l'appel de Néhémie ? L'appel de Néhémie, il commence sur ses genoux, pas pour recevoir de Dieu un mot, mais pour dire à Dieu, « Dieu, il y a des gens qui sont en train de mourir en Israël. Il y a une muraille qui est en ruine. Il y a des besoins terribles. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Au verset 10, il va plus loin, il dit, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple. » Vous voyez, on fait un peu culpabiliser Dieu des fois quand Dieu fait rien. Que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te révérer. Vous savez, on pense toujours que c'est les autres, quoi, qui sont meilleurs que nous, plus capables que nous, qui c'est eux qui ont l'appel. Ils sont... Et là, tout d'un coup, il y a un bouleversement, parce qu'au verset d'après, il est dit, de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre. Et que le roi, donc cet homme, m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Regardez ce qui se passe. Tout d'un coup, Néhémie a dit, « Seigneur, où est-ce que tu m'as placé et quel est le besoin qui vibre dans mon cœur ?» Je vais te dire quel est le plan de Dieu pour ta vie. Peut-être tu vas le trouver là où tu ne penses pas le trouver. Parce que tu es une maman célibataire, tu as tes deux enfants. Et tu dis, « Seigneur, c'était quoi ma vie ? C'est quoi le projet ?» Et Dieu dit, « Je veux que ce deux petits bouts de chou là, non seulement tu les élèves de la meilleure façon possible, deuxièmement, que tu les amènes le plus loin possible dans leurs études, et par-dessus tout, je veux faire de ces deux bouts de chou un homme et une femme de Dieu. Et c'est toi que j'ai choisi pour cet appel. Et c'est ton appel, et c'est ta destinée. Et tu sais pas quoi, je veux que tu excelles là-dedans. Là où d'autres ne seraient pas capables de le faire, je vais te donner une force extraordinaire pour que tu amènes plus loin et un jour, qui sait si tes enfants, etc. Et Dieu a des projets pour que tu fasses partie d'une chaîne dont tu es un maillon extraordinaire. Parce que tu es malade sur ton lit et tu dis « Seigneur, mais comment je... » Et Dieu te dit « Tu as un combat là, c'est ta destinée. Mais je veux que pendant ces années-là, tu me restes fidèle, tu tiennes bon. » Que tu t'approches de moi, que tu passes du temps avec moi et on va passer ensemble cette maladie et j'attends un autre, après il y aura une autre étape dans ta vie, mais pour ces quelques années-là, c'est ça ton objectif et c'est ça ton combat et je veux que tu triomphes de ça. On a chacun un appel différent, mais arrêtons de croire qu'il n'y a que ce qui brille, que ce qui brille qui est beau. Il y a des choses extrêmement profondes. Je crois que les plus grands appels sont lorsque tu as un cœur pour les autres. Tant que tu cherches ton nombril en disant « Seigneur, parle à mon nombril et dis-moi qui je vais être plus tard. » Dieu, il n'est pas intéressé de te révéler qui es-tu lorsque tu cherches au niveau de ton nombril. Par contre, si tu commences à dire « Seigneur, fais-moi vibrer pour une situation. » Et tout d'un coup, Néhémie, alors qu'il était en train de prier « Seigneur, bénis, s'il te plaît, agis pour Jérusalem, fais quelque chose pour ça. » Et Dieu lui dit « Ok, vas-y. » Vous savez que quand vous priez, quand vous avez vraiment un cœur, quand ça commence sur vos genoux, Dieu va vous mettre des situations. Alors que Dieu t'a jamais parlé, je peux te dire que lorsque tu mets des larmes devant Dieu et que tu dis « Seigneur, je t'en supplie d'agir pour ça », méfie-toi, c'est dangereux. Il est capable de dire « Vas-y, c'est toi ». Priez pas pour votre voisine des fois, méfiez-vous. Vous savez la mamie Acariat du premier étage là. Un jour, alors qu'elle est pénible, vous sentez dans votre cœur qu'il faut prier pour elle. Et là, vous dites, « Seigneur, tu vois la mamie, là ? Je veux qu'elle te rencontre. » À peine tu as fini ta prière, tu apprends qu'elle s'est cassée la jambe dans l'escalier et qu'elle a besoin de quelqu'un pour porter ses courses. C'est toi ? Ah oui, vous le voyez autrement. Vous aviez pensé qu'elle allait vous inviter, qu'elle allait devenir gentille, polie pour une fois, qu'elle allait vous dire « Viens prendre le thé chez moi. Oui, je veux donner mon cœur au Seigneur. Elle est où ton église ? J'ai trop envie d'y aller. » C'est pas ça l'histoire. C'est que la mamie « J'ai mal. Qui va porter mon cajot ? Qui c'est qui va prendre mes bacs de lait ? C'est 6 litres, c'est 6 kilos. Je peux plus le faire. » Mais oui, mamie, je vais le faire. Et là, tout d'un coup, ça va passer de la compassion à une mission. Et cette femme-là, lorsqu'elle sera dans le ciel, tu verras combien Dieu dit, chaque fois que vous avez fait cela pour moi, un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'était ta mission et tu l'as fait. Viens dans la maison de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est extraordinaire votre appel. Il se trouve où ? Il se trouve dans votre cœur au niveau de la compassion. Votre appel, ce que Dieu a prévu pour vous, c'est ce qui fait vibrer votre cœur et ce qui fait que ça vous donne envie de vous battre pour cela. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, votre vraie destinée, c'est ce qui vous donne envie de vous battre dans la vie. Alors maintenant, chacun là, en cet instant, qu'est-ce qui bat en vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre? De sauver quelque chose, de faire quelque chose? Souvent, c'est là que Dieu vous attend. Et arrêtez de penser au-delà des mers. Dieu, il a dit, tu aimeras ton... Ah non, il a dit, tu aimeras ton missionnaire. Non, il a dit, tu aimeras ton prochain. Je ne sais pas si vous avez réalisé que dans prochain, il y a proche. Hein. Eh oui, le quartier, il n'est pas terrible, mais c'est là que Dieu t'a mis. Parce que tu es le mieux préparé pour cela. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez défini l'objectif? Eh bien, il faut aller sur le terrain. Il y a un moment où beaucoup de chrétiens restent au niveau... Nous, on a ça des fois dans les camps d'ados et dans les séminaires. Vous savez, quand vous faites un séminaire, vous allez à l'appel, vous sentez une puissance de Dieu. Oh, je veux faire ça de ma vie! Mais en fait, tu es complètement déconnecté du réel. Il y a un moment où Néhémie, si ça vient de Dieu, le roi va valider. Le roi a validé. D'accord. Pars pas tout seul à l'aventure. Si tu as à cœur de devenir... une responsable d'école du dimanche, si tu as à cœur de toucher les enfants parce que tu vois que c'est ta fibre, c'est pour ça que ton cœur y vibre, ok, va incognito assister à plusieurs leçons d'école du dimanche. Et là, écoute, parce que c'est ce que va faire Néhémie au chapitre 2, au verset 9. « Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'ouest de l'Euphrate et je remis des lettres à l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des cavaliers, donc des officiers de l'armée. » Quand Sambala, le horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu. Le diable veut que tu restes assis. Hein. Surtout que la petite mamie de l'immeuble, il n'y a personne qui aille la chercher. Mais une fois arrivé à Jérusalem, dans ma destinée, j'y restais 3 jours. Je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que ma propre monture. Je sortis cette nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon, vers la porte du fumier. La réalité n'est pas terrible des fois. Hein. Oui, moi, Jérusalem, je la voyais comment? Moi, je voyais la porte des lilas, je voyais la porte de l'encens, la porte du fumier, la porte du dragon. Des fois, la réalité, quand vous l'affrontez en face, ça vous ouvre les yeux. Hein. J'examinais les remparts et je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis jusqu'à la porte de la source, je passais par l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Allez, je finis à pied, quoi. Je remontais toujours de nuit dans la vallée par la vallée du Cédron, je continuais à examiner la muraille, puis je fis demi-tour, je rentrais, etc. Ouh, c'est long, hein. Ça prend du temps de bien connaître la situation. Vous savez combien de temps il a pris Néhémie avant de bouger? Combien de temps il y a eu entre le moment où il a eu une grande compassion pour Jérusalem et le moment où il a vraiment fait l'effort de partir et d'aller visiter? Il y a eu combien de mois? Combien de mois? Vous savez pas? Ben, j'ai eu du mal à trouver. Mais souvent, les meilleures remarques de Dieu, il y a des indices dans la Bible, mais il faut faire l'effort de chercher un petit peu. Le verset qu'on avait lu tout à l'heure, c'était « Au mois de Kislev, la 20e année du roi... » Taxerxès, etc. Et puis au chapitre 2, au verset 1er, cette fois-ci, il nous est dit, durant le mois de Nissan, pardon, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, hein, donc c'est la même année, d'accord, mais c'est le mois de Nissan, rien à voir avec les voitures, on est d'accord. Hein, non, Kislev n'est pas une marque de Tchéquie et Nissan n'est pas une marque japonaise. Rien à voir là. Kislev, mois de novembre-décembre, Nissan, mois de mars-avril, 4 mois. Pendant 4 mois, Néhémie a réfléchi son projet. T'as envie de faire quelque chose pour Dieu? T'as envie un service dans l'église? 4 mois pour prier, vérifier, préparer. Après, tu vas visiter. Tu vas incognito et tu commences à réagir selon ton cœur. Et tout ça parce qu'un jour, tu as vu dans l'église une petite fille qui pleurait toute seule parce qu'elle cherchait sa maman et qu'il n'y avait personne à l'accueil. Et ce jour-là, t'as dit, ma destinée, c'est que plus personne dans l'église ne soit isolé. Et ce jour-là, tu t'es inscrite à l'accueil. Au bout de quelques temps de réflexion, paf, tu fais un test, tu regardes comment ça se passe. Puis après, tu sers le Seigneur. Et Eh bien, c'est bien, mais c'est dur, quoi. La réalité n'est pas facile, confrontation avec le réel. On voit toujours un éclaireur. Et la dernière remarque, après quoi je passe au deuxième point, au verset 16, il dit « Je n'avais pas informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, etc. » Oh, oh, petite remarque, petit secret. Lorsque vous avez à cœur de faire quelque chose pour Dieu, un, gardez-le pour vous, priez. Deux, faites une visite incognito. Si seulement toutes les personnes savaient avoir cette sagesse-là. Je vous donne un exemple. Mademoiselle vient voir maman en disant « Maman, je sens que je vais être chanteuse pour Dieu. » Très bien. On va t'écouter, ma fille. Ah non, mais j'ai une voix qui est catastrophique, mais je vais quand même être chanteuse. Non, là, il y a un problème. Alors, à mon avis, dites pas que vous allez être chanteuse tout de suite. Chantez. Bon, si c'est que maman qui juge, ça risque de pas être très, très objectif. Parce qu'elle trouve que son mari chante bien. Or, tout le monde sait que le mari... Bon, bref. Donc, allez vous confronter à quelqu'un qui va vous dire les choses honnêtement. Vous allez voir quelqu'un et vous faites un essai. Parce que c'est toujours humiliant d'arriver en disant « Je suis chanteuse !» Et là, de sortir une première note qui est affreuse. Vous risquez d'être brisé à jamais. Soyez humble. Démarrez en faisant une mission d'observation. Et si ça vient de Dieu, Dieu va vous donner un appui extraordinaire. Il va faire qu'un empereur va dire oui. Que vous allez avoir l'acceptation des gens qui sont dans le service. Et tout d'un coup, les Juifs qui étaient en train de rebâtir la muraille, c'était au verset 17, c'est alors seulement que je leur dis, regardez notre malheur, tout va mal, etc. Verset 18, je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Je leur rapportais tout ce que l'empereur m'avait dit et ils s'écrirent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Et ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Amen. Et là, c'est parti, ça marche. Vous êtes là encore ce matin ? Vous êtes calme, hein ? Soit vous écoutez avec profondeur. Soit... Comment tu réagis ? Parce qu'une fois que tu as bien décidé et que tu es prêt, Néhémie, il est en feu, là. C'est la semaine Alléluia, là. C'est la semaine où tout se passe, où on se dit vraiment Dieu est grand, il est capable d'agir. La stratégie du diable est le plus souvent, une fois que tu vas démarrer, de t'intimider. La stratégie du diable, c'est de t'intimider. Il va te dire, t'es pas capable, t'es pas prêt, t'es pas la bonne personne, t'es pas assez intelligente, t'as pas assez de diplôme, t'es pas assez compétente, c'est pas possible, tu vas perdre, tu vas pas réussir, c'est pas possible. Des fois, le diable, c'est même des personnes qui peuvent vous aimer, hein, qui vont juste vous casser. Clac, 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 clac. Des gens qui sont proches. Sambala, Tobia, c'était des gens qui étaient très proches de Jérusalem. Ils habitaient juste dans la banlieue. Et ils vont lui mettre la pression. Parce qu'au verset 18, quand Sambala, le Horoni, Tobia, son adjoint ammonite et Geshem l'arabe apprirent, ils se moquèrent de nous. Et ils vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Mais qu'êtes-vous en train de faire ? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ? Vous êtes des malades ou quoi ? Vous avez un cerveau de poisson rouge de vouloir vous lever contre l'empereur ? » Comment tu réagis ? Comment vous réagissez ? Ah, vous vivez ça des fois avec votre collègue de travail, non ? C'est la personne qui vous casse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je continuerai. Règle d'or numéro 1. Quand tu vas te lever pour Dieu, il va y avoir des combats. Et la règle d'or, c'est si c'est un projet de Dieu, c'est le problème de Dieu. Ouf! Si c'est un projet de Dieu, c'est le problème de Dieu, c'est pas ton problème à toi. C'est pas personnel. Qui c'est qui a pris les insultes ? Néhémie. Mais qui c'est qui est vraiment insulté ? C'est Dieu. Qui c'est qui va y mettre ses tripes ? C'est Néhémie. Mais qui c'est qui est derrière le projet ? C'est Dieu. Vous savez pas quoi ? C'est pas toi qui es attaqué. C'est le projet de Dieu en toi qui est attaqué. Quand je suis allé à la mairie... De Créteil, une fois, j'étais avec Colombe et on était là tous les deux. On a été reçus, mais très, très mal par le directeur de l'urbanisme, mais vraiment comme des moins que rien. Oui, vous ne ferez jamais l'église ici, ce sera pas possible. On n'avait même pas commencé, qui nous avait refait le portrait. Je voyais Colombe qui commençait à bouillir sur sa chaise. Moi, j'étais en train de bouillir. Je lui dis, Là, le gars, il ne sait pas qui vient de parler là. Parce que ce n'est pas à moi et à toi qu'il a parlé. C'est au Dieu Tout-Puissant. Lui, il a un chef qui s'appelle le maire. Moi, j'ai un chef qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Alors, s'il touche ça, c'est son problème à lui. Moi, je ne suis pas derrière. Oui, mais ce n'est pas facile. Hein. C'est facile à dire des fois. Hein. Mais quand c'est vous qui êtes dans le problème, là, vous avez envie de tout contrôler. Seigneur, réponds-moi vite, 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 je vais me faire tout, je vais me battre. Petite insulte, Seigneur, je mérite bien quand même. Non, tu restes en paix. C'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Et Néhémie dit, au verset 20, « Mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. » Point barre. C'est le projet de Dieu. Nous, on est juste des serviteurs de Dieu. Alors, si vous avez un problème, vous allez voir le grand boss. C'est bon, je vous ai retrouvé là. Un tout petit peu plus loin. Verset, chapitre 3, verset 32. Dieu est en train de bénir, parce que quand ça vient de Dieu, malgré les combats, il y a du succès. Et ce qui se passe, c'est que Néhémie, il n'avait rien au départ, il est parti avec trois fois rien, il n'avait pas beaucoup de compétences, et là Dieu lui envoie un orfèvre, des orfèvres qui commencent à travailler. Vous savez, les orfèvres, c'est beau quand même. Vous imaginez, ils commencent à incruster des pierres précieuses et tout ça dans les portes, dans les murailles, c'est magnifique, la ville devient belle, tu es fier de cela. Alors tu dis Alléluia, et à ce moment-là, verset 33, Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent, se mit violemment en colère, il se moqua des Juifs en disant, devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, mais qui sont ces minables Juifs veulent donc faire? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? Vous bossez pour rien, les gars. Mais vous vous prenez pour qui? Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta, ils n'ont qu'à bâtir s'il y a un renard. Le renard, ça fait combien de kilos là? Je suis pas un professionnel, j'ai jamais fait ça, mais c'est quoi? C'est un gros chat, un renard. Ça fait même pas 10 kilos. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, elle la brisera. En plus, franchement, ils ont mis un goûteur CAP cuisine pour rebâtir. Écoute, au Dieu, verset 36, c'est ce que dit Néhémie. Il dit, écoute, au Dieu, comme on nous méprise, c'est à toi d'entendre, Seigneur. Ne garde pas ce fardeau pour toi. Va le déposer auprès de Dieu. Règle d'or, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. C'est pas mon problème, c'est pas personnel, c'est le problème de Dieu. Et Dieu, il va écouter. La Bible dit, Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il bien plus que les habits? Vous voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce de quelques instants? Le temps, mes amis, perdez pas votre temps dans les combats inutiles. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements et pourtant je vous assure que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Et si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous, verset 31, tout le monde est obligé de le lire parce que jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête, ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, toutes ces choses. Les païens, c'est-à-dire les sans-dieux, c'est ceux qui n'ont pas de boss au-dessus d'eux. Ben oui, c'est normal, si je n'ai pas de Dieu, eh ben, je dois porter le truc. Les païens, eux, ils s'en préoccupent sans cesse. Mais vous avez un père, mais votre père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Alors faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes les choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même à chaque jour. Suffit sa peine. Alors si c'était quelqu'un qui avait vécu dans une villa avec jacuzzi et qui me dit ça, j'aurais pu ne pas écouter. Mais si c'est le Jésus qui est né dans une étable, qui a bossé comme charpentier, qui a travaillé de ses mains, qui a connu la souffrance, qui a connu la faim, et qui sur la croix, quelque temps après avoir écrit ce, après avoir dit ce passage, est capable de mourir d'une des morts les plus atroces qui existent sur la terre, je me dis, ok, s'il me dit « chaque jour suffit sa peine », il sait pourquoi il le dit. Et il est légitime à me le dire. Il vous reste un petit peu d'énergie encore ? Allez, regardez ce qui se passe, parce que je vais être vrai avec vous. Certains vont dire, « Pasteur, j'ai fait ce que vous avez dit. J'ai essayé de remettre ce problème à Dieu, mais c'est devenu très chaud. » Je veux dire, il y a des situations dans lesquelles on est intimidé, ça reste oral. Vous voyez, quand je suis allé voir l'urbanisme, c'était oral les menaces. Ce n'était pas physique. Mais il y a un moment où peut-être c'est votre santé qui va être touchée. C'est des choses qui sont... Là, on se dit, mais là, il est proche, quoi, l'ennemi. Il est proche, proche, proche. Au chapitre 4, lorsque Sambala et Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait. Ils détestent ça, le diable, quand tu progresses. Et que les brèches commençaient à être obstruées. Ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem. Ah, là, on n'est plus au niveau des paroles, mes amis. Là, ils commencent à préparer des plans de destruction concrets, là, pour y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple murmurait, ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force. Il y a trop d'enfants à l'école du dimanche. Pardon, l'État, vous allez voir, on va trouver plein de soucis partout. Hein. J'arriverai pas à m'en sortir, ma santé décline, mon fils est inconverti. Nanana. Il y a des tas de décombres, il reste énorme. Jamais nous arriverons à rebâtir cette muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront rien, ils ne verront rien, jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à leur travail. Il y a un moment où le diable va aller au-delà de tes forces. Ben alors, pasteur, c'était quoi la super règle numéro 1 où c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu? Ouais, mais si jamais notre vie est en péril, là. Le diable augmente la température. Le diable abat une carte. Le patron dans le ciel abat ses jokers. C'est le verset 6. Verset 6. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. Et de tous les lieux où vous vous tournerez, disaient-ils, ils viendront contre vous. Ils informent partout où là ils arrivent, les méchants. C'est pourquoi je mis des gens en place au contrebas derrière la muraille. Aux endroits découverts, je les postais groupés par famille, armés d'épées et de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux notables et aux chefs et au reste du peuple. Je leur dis, n'ayez pas peur, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Et lorsque les ennemis apprirent que nous étions informés, alléluia, et que Dieu avait déjoué leur projet, nous sommes retournés à la muraille, chacun à son travail. Dieu avait placé des agents secrets dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Quand le diable augmente la pression, Dieu dit, tu joues pas fair play, Satan, là-dessus. Alors là, moi, je sors mes cartes aussi. Vous savez que Dieu a toujours un coup d'avance. Dieu, quand tu as Dieu comme ami, que c'est un projet de Dieu, c'est Dieu qui prend en charge le projet. C'était la règle numéro 1. Dieu va faire sortir des forces insoupçonnées. Dieu, règle numéro 2, quand cela dépasse tes forces, rappelle-toi que Dieu a des réserves insoupçonnées. Quand cela dépasse tes forces, Dieu a des réserves insoupçonnées. Alléluia, elles sont où, Seigneur ? Eh bien, tu ne peux pas trouver, c'est insoupçonné. Vous êtes filou quand même. Hein ? Tout de suite, on est en train de se dire, Seigneur, ça va venir d'où alors ? Eh bien, ça va venir d'un endroit où justement tu ne peux pas calculer. Parce que tu te rendras compte que c'est le projet de Dieu. Et que c'est Dieu qui a mis de côté des réserves dans le désert où normalement il n'y a pas d'eau. Mais il y a juste ce qu'il faut et tu auras des réserves insoupçonnées. Moi, je me suis rendu compte combien de fois dans ma vie qu'au moment où j'allais craquer, j'ai eu une aide d'une personne que je ne m'attendais pas du tout. Ce matin au culte, il y avait quelqu'un que je connais parce que je connais très bien son histoire, qui un jour n'avait plus rien financièrement, était en grande difficulté. Et je sais qu'elle avait mis Dieu en premier alors qu'elle avait donné son nécessaire, quoi. Et à la fin d'une réunion, quelqu'un qui ne la connaissait pas du tout, qui est arrivé et qui a dit « Madame, le patron m'a dit de vous donner quelque chose. » Et il lui a donné exactement ce qu'elle avait besoin. C'était pas, je ne parle pas d'une histoire en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis. Je parle ici, à Créteil, au 113 rue du Général Leclerc. Et la personne, elle a reçu dans l'enveloppe tout ce qui était nécessaire. Merci Seigneur. Ça, c'est ce que j'appelle les réserves insoupçonnées de Dieu. Insoupçonnées de Dieu. Insoupçonnées de Dieu. C'est énervant hein, quand le diable y rôde. Hein. Et quand ils sont là en train de dire « on va attaquer !» Que la voiture, là, bim, tombe en panne sur l'autoroute. Pff, allez, 2000 euros. Ça vous use. Ça vous use. Mais vous savez pas quoi ? Dernier point. Vous trompez pas de combat. Vous trompez pas de combat. On passe au chapitre 6, là où on était. On termine par là où on avait commencé. Chapitre 6. Lorsque Sambala Tobia, Geshen l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Alléluia ! Ça, c'est encore un évangéliste. Il a annoncé les trucs, mais ce n'est pas vraiment fini, en fait. Sauf que les portes dont je n'avais pas encore posé les bâtons à cette époque. Ne crie pas victoire trop tôt. Va jusqu'au bout. Et tu sais pas quoi ? Jusqu'au bout, ils vont t'énerver. Jusqu'au bout, le diable va essayer de te détourner de ton objectif. Sambala et Geshem envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Kephirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. « Viens te battre si t'es un homme !» Attends, j'ai envie de leur mettre une tarte, là. Ça vous arrive pas, ça ? Non, mais là, j'ai presque fini la muraille. Attends, Seigneur, je fais juste une pause au niveau des portes, là. Je vais régler leur compte. Ça fait 4 ans qu'ils me pourrissent la vie. Ça mérite bien une confrontation nette et efficace pour régler le problème. Attends, quel problème ? Bah, Seigneur, il y a un combat, là. Oui, mais attends, Némi, le seul combat que je t'ai demandé de mener, c'est le combat de la muraille. Oui, mais Seigneur, ils m'ont un peu embêté, quand même. Oui, mais attends. Ton appel, c'est un appel à casser la figure de Tobia et de Sambala ? Ou bien ton appel, c'est de construire une muraille ? Seigneur, ça ne va pas avec ? Non, ça ne va pas avec. Regardez bien dans votre vie combien de faux combats secondaires le diable est en train d'essayer d'envoyer pour vous détourner de votre muraille. Vous essayez de bâtir votre famille et il essaye de vous faire focaliser sur cette collecte de travail. Alors que votre mariage est en difficulté, que vous avez des problèmes à gérer la maison, que le climat est dur à la maison, vous allez tomber sur une collègue qui va vous pourrir la vie de 9h jusqà 17h. Elle va dire, oui, il y en a marre, des petits cancans, des trucs. Et toi, tu es là, je vais lui régler son compte à la machine à café, tu vas voir. Moi, et tu arrives le soir, tu es cuite. Et tu arrives dans ce qu'était ton vrai combat, ton couple. Mais là, tu n'as plus de jus. Donc tu parles mal à tes enfants et t'écoutes pas ton mari et vous vous prenez la tête. Et le diable dit « Yes, je lui ai envoyé la collègue. » Elle a passé toute son énergie sur la collègue. Il n'y avait plus rien là où c'était le vrai combat. Normalement, ça devrait vous parler. Hein, parce que je pense que ça concerne des personnes ici à qui Dieu dit « Arrête de perdre ton temps avec des combats dans lesquels je ne suis pas. Là, tu vas tout seul. » Est-ce que Dieu a envie qu'il aille sur le ring avec Sambala ? Ben, c'est tentant, vous voyez. C'est tentant. C'est-à-dire, j'ai envie de régler les choses une fois pour toutes. Oui, mais ce n'est pas une chose à régler, ça. Ça, c'est un combat à oublier. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Désolé, je n'ai pas de temps à perdre avec cela. » Désolé, ça, ce n'est pas un combat prioritaire. Je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce message ce matin. Séparez ce qui est vraiment de votre destinée, ce qui est vraiment quelque chose que vous avez à cœur, dans lequel vous êtes un cœur de compassion, parce que sinon, vos objectifs ne sont pas dirigés par votre cœur. Vos objectifs seront dirigés par vos peurs. Le diable veut que vous oubliez votre cœur pour que vous soyez dirigé par vos peurs. Je voudrais dire quand même quelque chose parce que peut-être, je parle comme les hommes là ce matin, mais les femmes ont d'autres problèmes. Elles n'ont pas envie de descendre forcément sur le ring, ou quoi que. Mais une fois qu'elles sont sûres de gagner en général. Les hommes, ils sont prêts à se prendre une raclée rien que pour le but de dire, bon bref, c'est les hommes, des fois ils réfléchissent pas beaucoup, mais c'est pas grave. Mais les femmes, elles ont souvent un autre problème, et peut-être certains, notamment si vous avez été abandonné, si vous avez été délaissé par quelqu'un, vous avez juste besoin d'être aimé. Et peut-être, je ne sais pas si c'était le cas de Néhémie, peut-être qu'il aurait dû se dire, ah ben c'est bien, je vais pouvoir m'arranger avec Tobia et Sambala. Ah ben c'est cool alors. Il y a certainement quelque chose de bon dans ces gens-là aussi. Et ils méritent vraiment que je leur donne une chance. Ça fait 4 ans qu'ils me pourrissent la vie, mais peut-être qu'on va réussir à faire ami-ami, peut-être qu'ils vont m'aimer à la fin. Attends, c'est pas du tout... Quand on est pasteur, vous voyez, j'ai condamné un t-shirt, mais bon. Ou quand on est dans un service, des fois, on a envie de dire ça. Ça vous arrive, ça ?
Aimez-moi ! Aimez-moi ! Aimez-moi !
Il y a un moment où, à force d'être aimé, tu ne fais pas ce que Dieu te veut. Alors, il y a un moment où je dis, ok, je laisse tomber le fait d'être aimé. Enfin, en fait, je suis même condamné parce que l'Église est en train de grandir tellement vite que, et c'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui ne vont pas aimer. Moi, j'ai envie de vous donner de l'amour. Je vous dis, je t'aime, je vous aime, t'es génial. Pasteur, je couche avec mon copain, on n'est pas marié, machin, on ne veut pas se marier. Eh bien, t'es dans le péché. Comment ça, pasteur ? Vous n'êtes pas gentil, là, monsieur ? Ben non. Ben t'es dans le péché quand même. Mais pasteur, vous étiez si gentil quand je suis venu. Mais je suis toujours, écoute, je t'aime toujours autant. Mais ça, t'es dans le péché quand même. Ben je t'aime plus alors. Ben moi, je t'aime quand même. Et puis à la base, c'est, je suis pas là pour que tu m'aimes. Je suis là pour que tu aies la possibilité de rencontrer Dieu. Ma muraille à moi, c'est que chacun ici, avec sa vie telle qu'il est, son histoire, son passé, tout, puisse repartir à zéro avec Dieu et grandir avec Dieu. Maintenant, toi, tu prends pas, moi, j'ai fait mon job. Moi, j'annonce le travail, c'est-à-dire que Dieu t'aime et qu'il veut connecter avec toi, qu'il veut faire le ménage dans ta vie et qu'il veut faire de toi une créature merveilleuse. C'est tout ce que je sais. Le reste, c'est ton problème. Tu prends pas, mais mon but, c'est pas d'être en affection et de gérer tout par compassion. Moi, ma compassion, c'est par rapport au projet. Je sais ce que je veux, je sais que j'ai à cœur les âmes. Maintenant, je renonce à l'idée d'être aimé par tout le monde. Oh. C'est super dur de le vivre. Hein. Quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire et que, alors que vous avez fait des efforts considérables dans votre famille, vous n'êtes pas aimé. Des fois, vous avez envie de vous faire aimer malgré le fait qu'ils ne vous aiment pas. Et il y a un moment où Dieu dit, là, tu es en train de brûler ton énergie. C'est très gentil d'envoyer des SMS, mais à la fin, c'est du harcèlement. Donc, tu lâches l'affaire. Tu es poli, tu es gentil, mais ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. C'était la règle numéro 1. Si ça dépasse tes forces, Dieu a des réserves insoupçonnées. Et troisièmement, désolé, je n'ai pas de temps à perdre avec cela. Et dans tous les cas, vous restez avec un cœur de compassion et vous arrêtez d'être... En fait, vous voyez ce qui est... J'ai demandé aux musiciens de venir sur le devant, mais le problème, c'est que quand on veut être aimé, ce n'est pas une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire de peur. Ah, c'est un peu compliqué comme fin de prédication. Mais quand vous voulez être aimé à tout prix, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est que vous avez juste besoin, vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur d'être mis de côté, vous avez peur de ne pas être reconnu. Et c'est vos peurs qui vous conduisent, et non pas votre cœur. Parce que le véritable amour que Dieu met dans votre cœur, c'est dire aimer les gens indépendamment de ce qu'ils sont, indépendamment de ce qu'ils vous donnent. Aimer parce que c'est un cœur de compassion, c'est un cœur qui ressemble à Jésus. Alors maintenant, chacun, regardez ici. Quels sont les combats pour lesquels Dieu vous a appelé à être sur la brèche et quels sont les combats dans lesquels Dieu vous a dit « lâche l'affaire ». On va fermer les yeux ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur parce qu'il sait exactement quel combat, quelle est l'intensité que je peux gérer et il me donne un appui extraordinaire. Ne vous inquiétez donc de rien. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne perdez pas votre temps. Ne restez pas assis à rien faire dans une église. Ne perdez pas votre temps à ne rien faire pour votre couple. Ne perdez pas votre temps à ne rien faire pour votre évangélisation, pour vos collègues et tout ça. Mais en même temps, ne prenez pas des fardeaux si ce n'est pas votre appel. Il est temps qu'il y ait la maturité dans ton cœur. Dieu t'appelle à aimer. Et à être dirigé par ton cœur, pas par tes peurs. Oh Jésus. Confie.
confiance. Le long du chemin, j'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé.
Seriez-vous prêt à le dire? Non, je veux dire à le vivre, à le dire, à le vivre, à l'assumer. On va se lever ensemble. Ça va frustrer le diable peut-être, ça va frustrer quelques personnes autour de toi. Mais tu peux dire: Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin et je suis gardé. Et je suis gardé. Entendre vos voix comme une prière à Dieu.
Et tiens ma main à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé.
Alléluia.
Le plus grand ami.
Amen. Alléluia.
En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en je suis gardé.
Alléluia. Alors maintenant, vivez-le. Moi, j'ai terminé. C'est à vous de mettre en pratique. On peut s'asseoir. Je vais laisser David pour quelques annonces.